je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashishokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, philo.
Rap, littérature, révolution.
Ah là 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 là, chers amis, chers amis. C'est avec tristesse que je me trouve aujourd'hui en compagnie de mes frères chroniqueurs Bertrand Fibien, Paul Bismuth et Albert Tabu pour la dernière émission, vous entendez bien, la dernière émission de Montaigne Oise Thug, émission de rap, littérature et révolution qui a fait vibrer les ondes canusiennes pendant deux trop courtes années. Et oui, l'émission du Zbeul intellectuel, du Dawa révolutionnaire, touche aujourd'hui à sa fin. Mais, chers amis, l'heure n'est pas aux larmes. Il nous reste aujourd'hui une mission à accomplir. Celle qui nous ordonne de rétablir la justice, de faire le jour sur cette mystérieuse affaire qui a entraîné la chute de Montaigne Oise Thug. Tout a commencé par une enquête, celle de notre chroniqueur absent du jour, Eugène Yonegro, qui, assailli par un doute radical, s'est rendu à l'endroit même où circule l'information, où les dossiers sont révélés, le RU de l'Université de Lyon. Il a ainsi fait parvenir au QG des Thug un message vocal révélant que le ministère travaillait sur le dossier Montaigne Oise Thug dans le but de le censurer. Après quoi, j'ai effectivement reçu une lettre du ministère dans laquelle Jean-Vincent Placé lui-même me faisait savoir qu'en tant que potentiel futur éventuel ministre de la culture conditionnelle, il interdisait Montaigne Oise Thug. Je reprends donc les mots de Jean-Vincent Placé. Il a dit que l'émission était séditieuse, subversive, stratège, socialiste au sens propre du terme, et ça m'a fait bien marrer qu'il me reproche ça, sataniste, là j'ai pas compris, cinglé, saperlipopette, scrogneugneux, et là je pense que c'est son gosse qui a fini d'écrire la lettre, et surtout il a reproché à Montaigne Oise Thug son caractère zoophile. Alors là, j'avoue que zoophile, ça m'a fait un peu cogiter. Et je me suis dit qu'au vu de la relation bizarre que Bertrand Fibien entretenait avec les grenouilles, peut-être que cette accusation n'était pas tout à fait infondée. Mais passons. Ce que je dois vous révéler aujourd'hui, c'est tout d'abord l'enregistrement que m'a fait parvenir Eugène Yonegro et qui révèle une autre information en plus de la potentielle censure de Montaigne Oise Thug, une information de la plus haute importance. Une information qui concerne l'existence d'une éventuelle taupe au sein de l'émission. Oui, chers auditeurs, Monsieur Thug, ici présent, a été trahi. Trahi par son cœur, trahi par sa sœur, comme l'a dit la grande poète Vita. Trahi par la chair de sa chair. Et écoutons plutôt Eugène Yonegro nous faire ses révélations.
Oui, monsieur Thug, bonjour, c'est Eugène Yonegro. J'ai des informations de la plus haute importance à vous divulguer. J'ai ouï dire au restaurant universitaire que Bismuth, Paul Bismuth, vous aurez balancé auprès de Jean-Vincent Placé. Je n'ai pas des informations très précises, mais je crois savoir qu'il lui aurait dit que votre émission était suffisamment dangereuse pour qu'elle il soit nécessaire de la supprimer de toute urgence. Je vous recontacte dès que possible. À bientôt, Eugène.
Et oui, vous venez de voir qu'il y a donc des chroniqueurs qui sont fidèles, qui enquêtent pour la foi de Montaigne-Oiseteuil. Mais des chroniqueurs qui sont en vérité des traîtres. Alors, monsieur Paul Bismuth, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense là ? Parce que je tombe de haut.
Pour ma défense, je dirais très simplement que mon nom a été abusé. Une fois de plus, on utilise mon patronyme pour des affaires qui n'ont pas lieu d'être. Je vous prie d'entendre sachez que je suis dévoué à la cause de Montaigne-Oiseteuil.
Vous dites donc que votre patronyme a été usurpé et que un autre Paul Bismuth aurait en fait enquêté sur moi.
Tout à fait. Où il s'est attribué mon nom, c'est quelque chose qui se fait très couramment. Et je ne douterai pas d'ailleurs que ça puisse être quelqu'un ici, parmi les chroniqueurs, qui puisse être l'auteur de cette usurpation. Je relancerai toute la suspicion sur ce Eugène Negro.
Nous ne sommes pas ici pour procéder aujourd'hui à une exécution sommaire.
Un tribunal populaire.
À une exécution sommaire, pour commencer. Qui consisterait à coller Paul Bismuth contre un mur, mur de la place Satonée, à l'abattre d'une balle dans la nuque. Non, en tant que révolutionnaire œuvrant pour la justice sociale, nous livrerons dans cette émission à un procès en bonne et due forme de monsieur Paul Bismuth. Et ce, dans la plus pure tradition des procès staliniens, qui, comme chacun le sait, ont fait régner la justice en URSS. En attendant que nous attachions Paul Bismuth à sa chaise, par simple mesure de précaution, je vous propose d'écouter un son de la Mafia Coffrey qui s'intitule Balance et qui ne vise personne ici et ne porte en rien atteinte à la présomption d'innocence.
Passé.
Ça arrive à tout le monde, mais t'as été parfait, t'as rien bavé et ils savent rien.
Je croyais que tu serais Furax.
Moi, mais je suis pas Furax, je suis fier de toi. T'as fait ton baptême de tôle comme un chef et t'as appris deux choses essentielles dans la vie.
Quoi ?
Regarde-moi, jamais balancer les copains et toujours admettre rien.
Tu deviens tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais, c'est toi que je parle, balance, tu me reconnais, t'es enculé, on peut pas t'aimer, tu parles de moi au flic, où est l'intérêt? Tu deviens tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais, c'est toi que je parle, balance, tu me reconnais, t'es enculé, on peut pas t'aimer, tu parles de moi au flic, où est l'intérêt?
Tu parles gros, on devrait t'arracher la langue avec une grue et te la mettre directement dans le cul. Tu baves en plus, tu salis la couche d'ozone, fais gaffe, t'es recherché dans ma zone. Passe-moi un marteau pour lui clouer son bec de lièvre. On t'expose tout nu au soleil et t'attrape la fièvre.
Alors ta chose est cramée, tout le monde sait t'a balancé. T'oses même plus balader dans le quartier. T'es grillé, fiché, boucave, sur toi ça parle. Y'a plus d'un contrat sur ton crâne. On a même parlé de toi à l'émission, tout le monde en parle. Alors t'es vert, t'as ouvert ton arrière au commissaire. On sait plus comment le faire taire, t'es victime des feux secondaires. Et yo, faut pas violer la loi du silence. C'est bon, on balance et nous du haut d'un pont, on te balance.
Tu as tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais. C'est toi que je parle, balance, tu me reconnais. T'es ton culé, on peut pas t'aimer. Tu parles de moi au flic, où est l'intérêt? Tu viens tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais. C'est toi que je parle, balance, tu me reconnais. T'es ton culé, on peut pas t'aimer. Tu parles de moi au flic, où est l'intérêt?
T'étais vraiment mon pote, tu l'aurais pas fait. T'as gaffé, ou lui fermer tes dents, gros t'as bavé. On m'a dit pas sous les coups, mais face à la tôle. T'as perdu tes couilles, tu fais du mitard et des embrouilles. Et alors tu t'affoles, mais non pas trop t'affoles. Imprimé devant les halls, mec. Moi je rappelle mes putes, tu renseignes au. Si ton seul moyen de survie est de balance, ma devise est de balance. Toujours un high kick quand ça balance.
Je t'ai fait manger, tu m'as fait plonger, petit fils de pute. Tu connais le code de la rue, petite langue de pute. En plus tu me connais, fais chez toi, parents ou pas, je te haggle. Je te ferme une vide à l'oca dans mon local. Les jours sont bouffés, sans boire ni péter. Tu cries dans le quartier, tout le monde sait que t'es une balance.
Tu viens tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais. C'est toi que je parle, balance, tu me reconnais. T'es enculé, on peut pas t'aimer. Tu parles de moi au flic, où est l'intérêt?
Donc mes potes font remonter par l'ADN les empreintes à ces fils de pute qui jouent les shows, qui portent plainte aux amateurs main courante, appel anonyme. J'imagine l'inspecteur a du mal à suivre à la machine. Tu frimes, vends ta meuf, bluff ton équipe. équipe, tu trahis ton baveux. Vends les keufs, passe aux aveux, t'es qu'une balance, à jamais gravé dans nos mémoires. Une grosse balance, quand on refle apparaît dans le miroir. À ce qui paraît, tu descends même plus en promenade au placard. Hachem ta famille dans le tiocard, tu te fais hagar. T'as plus qu'à trancher dans la voiture, changer de voiture, devenir un trave, faire une teinture, on va se venger. Ton cul va faire un tour de magie, assis sur une bouteille, et disparaître devant tous les mecs de la Tessie. Avec ton gros trou de balle, à travers ta bouche, on peut voir par terre, tellement tu peux pas taire. Même les psys disent plus bonjour, mais ta fiche qui t'oblige à faire un grand détour pour entrer, parce qu'on t'a mis une fiche
de chien. Fais ça sans vergogne, avec mon chalance, balance. À chaque phrase, on devrait scier une phalange. Tu tiens plus en place, peur d'avoir une équipe sur le dos. Si c'est le cas, pour t'en sortir, faut que tu te surpasses, sale rap. Si tu l'as fait, c'est que tu vas le refaire. Trahir ton frère alors qu'il voulait se refaire, tu peux en être fier. Pas de saisie sans indic, nique. Les poucaves dans les histoires à 20 briques ou de la résine de canard.
Quand je pense que tu faisais le canard pour qu'on te fasse qu'écro, maintenant tu veux nous canard, carba.
Sous merde, t'es qu'une serpillière.
C'est ta faute si des darons se font braquer à la première prière.
T'aurais dû garder le silence, pour toi on bougera en silence. On aurait jamais dû te faire confiance, balance. Balance, balance, balance.
C'est Montaigne was the tag. Rap, littérature et révolution sur Radio Canu pour la dernière émission. Dernière émission, pourquoi? Parce que Paul Bismuth a potentiellement... Non, je ne m'avance pas trop vite. Peut-être que c'est pas lui, mais sans doute que c'est lui quand même, je pense. Mais on ne sait pas. Donc, Paul Bismuth a potentiellement balancé Montaigne was the tag auprès de...
Vous feriez plus confiance à un chroniqueur qui est arrivé après moi, du coup. Je suis le premier chroniqueur à être...
Le procès n'a pas encore commencé, votre parole n'a pas de réelle valeur. Et d'ailleurs, je ne suis pas le juge, mais la victime, car le juge, aujourd'hui, c'est le magnifique Bertrand Fibien. C'est un juge totalement voilà, impartial et qui n'a rien à voir dans l'affaire, hein, on tient à préciser, même s'il est chroniqueur. Bonjour Bertrand Fibien.
Bonjour, mais je tiens à dire que je resterai quand même intraitable.
Et nous avons donc également en notre compagnie l'avocate, votre avocate, monsieur Bismuth, qui est là et qui est... Bonjour. Oriane de Monet.
Maître de Monet, je vous prie.
Maître de Monet, oui, avocate commise d'office et qui étudie actuellement en première année de droit à l'université Lyon 3. Et voilà, également celui qui va charger le dossier aujourd'hui, j'ai nommé Albert Tabu, qui est là. Bonjour monsieur Tabu.
Bonjour à tous.
Alors comment ça va se passer? Ça va être très simple. La parole va tout d'abord être donnée à la défense. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Et la défense va donc défendre, hein, puisque c'est son rôle, le dossier Bismuth. Par la suite, une attaque véhémente sera placée et atteindra sans doute à la gorge monsieur Bismuth, qui s'effondrera. Mais nous tenons à rappeler que la victime ne prend pas parti dans ce dossier, tout comme le juge qui d'ailleurs est là et donc va pouvoir lancer les hostilités. Monsieur Fibien, à vous la parole.
Eh bien, à vous la défense.
Merci monsieur le juge. Je tenais d'abord à rappeler brièvement les faits. Mon client, Paul Bismuth, est ici injustement accusé de trahison vis-à-vis de Monsieur Thug et de l'émission Montaigne was the Thug. Quelles sont concrètement les charges qu'on lui oppose? Il est tout d'abord accusé de collusion avec l'ennemi. Qui l'accuse exactement? Eh bien, il s'agit d'un jeune homme, Eugenio Negro, qui étrangement n'est pas présent parmi nous, qui nous a laissé un message vocal, c'est-à-dire un message qui n'est pas recevable aux yeux de la loi, d'autant plus qu'il rapporte des oui-dire, des choses qu'il aurait entendues dans le restaurant universitaire, un lieu étrange où les gens de ma condition ne mettent pas les pieds, et sans doute pour des raisons assez évidentes, puisque il y a là-bas une population qui n'est pas fréquentable. Cette population aurait porté des accusations à l'encontre de mon client Paul Bismuth. Comme il l'a lui-même rappelé auparavant, on ne peut pas s'appuyer sur des oui-dire qui concerneraient son nom, puisque son nom a été déjà injustement usurpé par des personnages qui sont, à vos yeux, des gens de peu de conditions et peu recommandables. J'ai nommé Monsieur Sarkozy. Mais n'en parlons pas. Il est aussi question ici d'une lettre reçue par Monsieur Tug de la part de Monsieur Jean-Vincent Placé qui demande la fin de Montagnoise de Tug. Je dois souligner ceci. Quels seraient les motifs de Monsieur Jean-Vincent Placé pour arrêter cette émission? Sans doute qu'il y voit une menace à l'encontre du gouvernement et de l'ordre public. Or, Monsieur Paul Bismuth ici présent est farouchement opposé à cet ordre public et au maintien du gouvernement. Quels seraient donc ses intérêts dans cette affaire? Pourquoi irait-il à l'encontre d'une émission qui servirait son dessein politique et révolutionnaire? On ne sait pas, et je pense que l'accusation va ici tenter de démontrer que Monsieur Paul Bismuth est un traître à la cause et qu'il a des motifs cachés, sans doute économiques ou voire sociaux. Mais je tiens déjà à dire que l'accusation n'est pas impartiale dans cette affaire, puisque le juge, l'accusé et l'accusation sont tous en collusion et qu'ils ont tous décidé. Non, il n'y a pas de
monsieur le juge, s'il vous plaît.
C'est mon plaidoyer. Ils ont tous décidé de s'en prendre à mon client qui devient bouc émissaire.
Oui, c'est vrai.
Exactement. Il est même venu en jupe pour le ridiculiser. Enfin, y a-t-il pas d'autres suspects vers lesquels nous regarderaient se porter? Et je parle bien entendu de Monsieur Tug. Car à qui profite la fin de cette émission? À lui, il peut se présenter en victime et devenir un symbole, un martyr de la cause sociale révolutionnaire.
C'est une mise en scène, monsieur le juge.
Exactement, je dénonce cette mise en scène. En outre, et pour finir, je dois souligner que j'ai été informée et mise sur ce dossier il y a une heure à peine. Je n'ai absolument pas pu préparer la défense de mon client. Et pour autant, je serai largement plus convaincante que l'accusation, parce que cette accusation ne repose sur aucun fait réel, sur aucun témoignage qu'on puisse prendre pour vrai. Et enfin, parce que Paul Bismuth est bien entendu innocent. On le voit sur son visage. Regardez ses traits tirés, marqués par la fatalité.
Nous sommes à la radio, madame Audé. Nous ne voyons pas les traits.
Oui, mais bon, il faut que les auditeurs sachent, puissent voir Paul Bismuth qui est accablé d'être ainsi trahi par les siens, d'être ainsi injustement accusé. Et vous, monsieur le juge, vous, oui, qui gardez le silence, comment pouvez-vous faire ça à votre ami de longue date, Paul Bismuth? Vous savez bien qu'il est innocent, qu'il ne peut pas avoir trahi, alors que Eugenio Degro, qui a un nom déjà qui porte à suspicion, lui qui n'est pas là, pourquoi n'est-il pas là? Sans doute qu'il est déjà au ministère en train de se placer auprès de Jean-François Placé.
Complètement, Vincent. Oh là là.
Voilà, pour finir, je veux dénoncer ce procès qui n'est qu'une farce absurde. Pour mettre en avant Monsieur Tug, qui va bientôt partir bizarrement à Paris. Et pourquoi? Pour monter une nouvelle émission qui aura sans doute plus de succès que celle-ci.
Subventionné.
Et voilà, et il sera porté par ce scandale qui va éclater et qui le mettra en haut de l'affiche. Alors que Monsieur Paul Bismuth, lui, sera mis plus bas que terre et sa réputation sera justement salie. J'ai fini, vous pouvez parler l'accusation, mais bien sûr, votre parole sera tout à fait.
Laissons parler le juge d'abord, je crois.
Donc bon, vous pouvez parler, donc l'attaque peut maintenant parler, mais si elle pouvait essayer de ne pas prendre par les sentiments le juge comme elle a essayé de le faire à la défense, ouais. Ce serait préférable.
La corruption est mal vue de nos jours. C'est ce qu'elle essaye de faire.
C'est une corruption. Ce procès est une corruption.
Je coupe son micro. Vous avez dit...
Non.
Vous avez dit qu'il n'y avait aucun fait qui était réel et qui était fondé sur cette accusation. Or, j'ai été chargé par Monsieur Tug d'enquêter sur vous, Paul Bismuth, à la suite des soupçons émis par notre compère Eugenio Negro. Pendant ces derniers jours, je vous ai suivi, je vous ai mis sur écoute, chaque minute, chaque seconde, pour obtenir la vérité. Et la vérité, je l'ai, et je vais vous la dire tout de suite. Vous étiez à Paris pour un soi-disant examen, c'est ce que vous nous avez dit. Mais, chers amis, chers auditeurs, tout cela est faux. C'était une mascarade, un mensonge monté de toutes pièces par vous, Paul Bismuth. Cet homme a une double vie, je vous le dis. Et en effet, je vous ai épié samedi dernier, et je vais dire à tout le monde ce qui s'est véritablement passé ce jour-là. À partir de 11h08, vous sortez de votre luxueux appartement parisien pour vous diriger vers la voiture de votre chauffeur personnel, Gaston, qui vous dépose à 11h21 précise au café La Tour d'Argent. Vous y restez environ 40 minutes, le temps de savourer votre grand mocha tout en vous donnant un spectacle, lunettes de soleil sur le nez et journal Le Figaro entre les mains. Ça ne trompe pas. Et déjà, je dois dire que j'ai été troublé par cette première scène qui ne ressemble en rien à votre mode de vie habituel. Et pourtant, c'était bien vous, je peux le certifier. Et je vais continuer le récit de cette journée pour vous le prouver. 12h38, Vous vous dirigez vers l'entrée du restaurant La Rotonde. Restaurant très réputé à Paris. Je vous suis et je m'assois à une distance raisonnable de la table qui vous était réservée. Et vous attendez Jean-Vincent Placé et Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Vous prenez comme vin un simple Château Latour de 1997 pour accompagner des repas constitués d'environ 8 plats. Je passe sur les détails. Mais trois phrases ont retenu mon attention au point que j'ai dû stopper la dégustation du pain que je venais de voler sur la table d'à côté. Premièrement, j'ai pu prendre en note cette première phrase. Montaigne was a thug, c'en est fini, l'émission sera bientôt censurée. Deuxième phrase. Cette côte de bœuf est succulente. Et enfin, troisième phrase. Je vais aller me repoudrer le nez. Alors je ne sais pas quoi penser des deux premières phrases, mais une chose est sûre, cette dernière phrase qui a été prononcée par vous, Paul Bismuth, est bien la preuve que vous êtes un menteur, car prononcée par un homme, cette phrase nous laisse dans le doute et dans le soupçon. Et cela prouve que vous êtes bien un menteur et que les soupçons qui étaient émis par Eugenio Negro sont donc peut-être bien fondés. Et la suite va le prouver puisque à 14h04, vous sortez du restaurant et passez l'après-midi au cinéma pour voir le film Bienvenue à Marly-Gaumont. Toujours en salle d'ailleurs. 17h10, après la séance, vous avez rendez-vous à Matignon où vous retrouvez le Premier ministre Manuel Valls dans son jardin en train de jouer au golf avec des restes de manifestants contre la loi travail. Je me croyais déjà dans un rêve, mais je me suis rapidement aperçu qu'il s'agissait d'un cauchemar lorsque vous étiez en train de siroter un martini agrémenté de quelques olives sur le son de Florent Pagny, Ma liberté de penser. Et c'est là que vous échangez quelques phrases au sujet de Montaigne was a thug. Et j'ai entendu que M. Thug finirait ses jours à Guantanamo. Que le grand Bertrand Amphibien deviendrait le nègre de Marc Lévy. Et qu'encore Eugenio Negro serait contraint d'office à suivre Patrick Sébastien et son grand cabaret à travers toute la France. Et avant qu'il ne parle des autres chroniqueurs parmi lesquels je figure, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis arrivé hier soir à Lyon pour prévenir le groupe que Paul Bismuth était contre nous et qu'en échange de quelques révélations sur nos pratiques révolutionnaires, il serait décoré de la Légion d'honneur, élu chevalier des arts et des lettres et remplacerait Jean-Pierre Elkabbach pour présenter l'émission Bibliothèque Médicis.
Bon, alors je pense qu'il est temps pour moi de rendre mon verdict, mais étant donné que finalement j'ai pas trop écouté ce que vous avez dit, je demande un duel judiciaire.
C'est-à-dire une opposition entre deux personnes qui, voilà, qui va se jouer à la force des bras et ici à la radio plutôt à la force de la langue. Et c'est-à-dire que Monsieur Bismuth est le champion des thugs ici présent.
Nelson Goku
qui vient d'être nommé à l'instant champion des thugs vont devoir s'affronter pour voir qui a raison en fait. C'est ce que déjà disait La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et dans un procès stalinien finalement le plus fort, bon, on verra qui c'est, mais on verra bien. Les règles de ce duel judiciaire, je vais vous les exposer et vous aurez 3 ou 4 minutes pour vous préparer à vous affronter pendant la pause musicale à suivre. Les règles sont très simples, chacun votre tour, et c'est Monsieur Bismuth qui va commencer, c'est moi qui fais les règles après tout, vont devoir trouver une phrase qui finit par « oui ». Le premier
par « oui »
à rester quoi aura perdu. C'est un jeu directement inspiré de la passion des grenouilles de Bertrand Amphibien. Donc voilà, je vais mettre un son qu'on écoute souvent en matière de justice et vous pouvez d'ores et déjà vous préparer. This is a DJ Underground exclusive. That's the sound that I want you for.
Vous écoutez toujours Montaigne Oise Thug, l'émission de rap, littérature et révolution qui se termine aujourd'hui, rappelons-le, sur ordre du ministère, hein, Jean-Vincent Placé, lui-même le grand Jean-Vincent Placé, connu de tous, a envoyé une lettre au Thug pour leur signifier la fin de cette émission. Et la potentielle top ici présente, monsieur Paul Bismuth, se voit aujourd'hui faire son procès administré par le grand Bertrand Fibien. Nous avons eu la magnifique défense de mademoiselle Oriane de Monet qui n'a convaincu qu'elle, et bien sûr la très très pertinente attaque de monsieur Tabu, faite après une longue enquête qui nous a tous convaincus, hein, de la culpabilité de Paul Bismuth. Mais la parole est au plus fort, puisque aujourd'hui duel judiciaire entre Paul Bismuth et le champion des thugs Nelson Goku. Nous répétons les règles pour vous, chers auditeurs qui venez d'arriver. Chacun doit, à son tour, livrer une phrase qui termine par « ouille ». Le premier qui reste quoi a perdu. Donc c'est tout d'abord la parole à monsieur Bismuth. Monsieur Bismuth, vous pouvez y aller.
Et moi, je proteste contre ce procès où on me traite comme une andouille.
Et moi, je vous ai vu à Paris sur des manifestants pratiquer des fouilles.
Des fouilles, mais que l'on me dise qui se débrouille avec des fouilles.
Objection, c'est le même terme qu'il a employé pour terminer.
Vous avez répété le mot fouille, veuillez commencer votre phrase s'il vous plaît.
Mais je ne les fouillais pas, je leur faisais des bisouilles.
Oui, mais en prison, vous finirez entre vos barreaux et dans la rouille. Vous voilà et... quoi, vous en perdez vos couilles.
Tout à fait, mais c'est qu'il me sera difficile de partir en grande vadrouille.
Vous avez expulsé tous ces ouvriers du Nord-Pas-de-Calais et vous juchez désormais sur ces montagnes de houille.
Je pense qu'il y a un mot évident qui n'a pas été prononcé.
Oui, mais je vous en donnerai 100 grenouilles.
Accepté par le juge.
Et vous irez vous faire des nouilles.
Non, mais je préférerais me faire de la ratatouille.
Votre présence ici nous souille.
Mais allez vous faire donc voir chez le fenouil.
Je pense que monsieur Bismuth est amplement mérité sa peine. Monsieur le juge, à quelle est l'issue donc de ce duel? Eh bien, alors, même si Paul Bismuth a prononcé le mot grenouille, je pense qu'il ne l'a pas du tout mis en valeur, alors je décide qu'il a perdu. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une explication quant à la traîtrise de monsieur Bismuth, qui va au-delà même des faits, mais qui tient au fait que, comme chacun sait, et comme cela a été notamment prononcé par Rousseau, la marche, ce qu'on fait avec ses pieds quand on avance, la marche, c'est quelque chose donc qui élève l'esprit et qui ouvre l'âme. Or, je pense que si monsieur Bismuth est un tel traître, c'est parce qu'il n'a pas assez marché dans sa vie et que la marche ne lui a pas permis de réfléchir et de penser comme il faut. Et donc, à propos de cette question de la marche, j'ai noté qu'un jour, Gottlieb, dans la rubrique Abrac, le tome 2, je crois, s'était posé la question de savoir s'il valait mieux marcher en regardant vers le haut pour contempler le ciel ou en regardant vers le bas pour contempler la terre. Et il avait conclu qu'il fallait faire les deux, et donc savoir avoir un œil tourné vers le haut et un œil tourné vers le bas. Mais étant donné que c'est quelque chose qui n'est ni très facile ni très esthétique, je pense que maintenant, aujourd'hui, il faut que nous choisissons, vu qu'il faut choisir, à savoir s'il faut regarder vers le bas ou vers le haut. Et pour ça, donc, je vous propose d'évaluer les risques d'une telle pratique. Quels risques encourt-on quand on marche en regardant constamment vers le haut, et quels risques encourt-on quand on marche en regardant vers le bas. Donc, si on regarde vers le haut, quels risques avons-nous? Donc, on peut prendre les pieds dans une racine, dans des cailloux et trébucher, ou alors mettre la cheville dans un trou et donc se faire une entorse, marcher dans l'eau, dans du caca, etc. Donc, que des trucs qui sont pas franchement cool. Alors que si on regarde vers le bas, qu'est-ce qu'on risque? On risque de se cogner la tête. Et alors, la question que je vous pose, qu'est-ce qui se passe généralement quand on se cogne la tête?
On a mal.
Oui, on a mal. Quelque chose de spectaculaire.
On a une bosse.
Ouais.
On tombe.
On y reviendra. Mais quelque chose de vraiment très spectaculaire qui arrive à chaque fois.
saigne
beaucoup.
mais on est frappé d'amnésie. Voyons, vous connaissez bien ce
leitmotiv. Exactement.
C'est massif.
Exactement.
Parce que vous buvez en même temps que vous.
Non, cela est prouvé, vous le verrez bien. Et d'ailleurs, nous sommes souvent frappés d'amnésie quand on se fait cogner la tête. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'amnésie, c'est quelque chose de cool, en fait.
Ah.
Et cela, pourquoi ? Parce que ça permet de vivre d'incroyables aventures. En effet, la littérature et la fiction, même en général, parlent énormément d'amnésie. Et nous offrent ainsi des réelles pages de fiction et d'aventures grâce à l'amnésie qui arrive quand on se fait cogner la tête. Donc nous avons par exemple Anouilh dans Le Voyageur sans bagage qui raconte l'histoire.
Encore un mot oublié de l'écurie judiciaire.
Donc il raconte l'histoire de Gaston qui est retrouvé amnésique après la Première Guerre mondiale et qui est revendiqué par plusieurs familles. On a le roman d'Antoine Volodine, Dondong, qui raconte l'histoire d'un amnésique rescapé des camps qui fait appel à un chaman pour retrouver ses tortionnaires. Notre récent prix Nobel français, Patrick Modiano, adore également tout ce qui parle d'amnésie, donc par exemple dans les romans Rue des boutiques obscures, Du plus profond de l'oubli ou Le quartier perdu, etc. Mais un peu moins intellectualisant, la bande dessinée parle beaucoup d'amnésie. Dans la bande dessinée 13 de Vance et Van Heim, ainsi que Astérix, Le combat des chefs, où Panoramix est rendu amnésique par un coup de menhir que lui a donné sur la tête,
c'est
bien la preuve. Ou alors, encore plus évident, Dragon Ball Z, ou Dragon Ball. Avant, Sangoku est envoyé sur Terre pour détruire la Terre, mais parce qu'il s'est cogné la tête, il a oublié qu'il devait faire ça, et c'est pour ça qu'il est gentil et qu'il vit toutes ses aventures. Et enfin, il y a même le cinéma qui parle d'amnésie. Nous avons notamment le film de Christopher Nolan, Memento, où le personnage a une amnésie assez particulière. En fait, il oublie tout ce qui s'est passé dans le quart d'heure qui vient de se passer. Mais donc, vous avez évoqué aussi autre chose que l'amnésie. Quand on se cogne la tête aussi, on peut avoir une bosse. Mmh. Et alors, donc, imaginez qu'est-ce que peut avoir de bien une bosse. Donc, je vous propose d'ouvrir votre imagination. Pardon ?
On devient bleu.
On devient bleu. Non, jamais. Bon, bref. Donc, imaginez. Moi, voilà, je suis comme ça, là, je me balade sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Et bien sûr, donc, je regarde par terre afin d'éviter de marcher sur des fourmis ou des souris ou même quelconque créature, de toute façon, du règne animal ou végétal qui mérite notre respect. Et alors, vu que je marche en regardant par terre un peu vite, je ne vois pas que là, il y a devant moi une barre de fer qui lévite comme par magie. Et vu que je marche vite, eh bien, la barre de fer heurte mon front de plein fouet, et donc là je tombe un peu abasourdi, et là il y a vraiment un énorme œuf qui commence à pousser en plein milieu de mon front. D'ailleurs il pousse tellement qu'on dirait plus vraiment un œuf, mais carrément une véritable corne au milieu de mon front. Et alors là, par le plus grand des hasards, imaginez, passe devant moi le directeur d'un cirque ambulant. Alors, comme il me regarde par terre lui aussi en marchant, ce qui est important, il me voit, moi et ma bosse, et là il me prend pour une licorne, et en traître il m'attache, me bâillonne, m'enferme dans une cage. Et me voilà transporté jusqu'à un cirque.
Comment il a fait pour devenir juge
Donc je suis transporté vers le cirque, et une fois arrivé là-bas, je suis directement précipité sur la scène. Et là, on entend une voix. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le grand spectacle de l'homme licorne. Alors moi, je suis là un peu embêté, parce que déjà, j'ai mal à la tête. En plus, je suis pas vraiment un homme licorne, et la corne que j'ai sur la tête, la bosse, elle commence à rétrécir. Donc là, je suis un peu embêté. Le public il va directement se rendre compte que je suis pas une licorne. Mais heureusement, en marchant vers le centre du cirque, je regarde par terre. Et alors là, je ne m'aperçois pas que le trapèze que le trapéziste vient juste de lâcher m'arrive en plein sur la tête. Il atteint violemment ma bosse. Et alors là, miracle, ma bosse double de volume. Ma tête explose dans une sorte de folie bachique. Alors là, j'oublie la douleur. Je me mets à courir partout, à bondir, à hurler. Et là, ça y est, le public est ravi. Il a vraiment assisté au show d'une licorne endiablée. Et en plus, moi aussi, je suis ravi, car le soir, je rentre chez moi, heureux et pris d'un certain calme olympien. Il me semble que j'ai côtoyé le sublime. Alors certes, on me diagnostiquera peut-être dans quelques jours une commotion cérébrale, mais bon, avec un peu de chance, je deviendrai amnésique, et là, ce sera encore le début de nouvelles aventures. Donc, vous voyez bien que il vaut mieux marcher vers le bas, il peut nous arriver que du bonheur.
C'est convaincant.
D'autant plus que cela peut refléter un certain mode de pensée. Donc vous avez bien dit que Rousseau a merveilleusement montré dans les rêveries d'un promeneur solitaire le lien qu'il y a entre la marche et la pensée. Et alors marcher en regardant vers le bas, c'est en quelque sorte porter un intérêt sur le monde, regarder ce qu'il y a sous nos pieds, tout en laissant notre tête et donc notre esprit, notre imagination à l'infini des possibilités que nous offre l'inconnu. Et donc ainsi la marche du philosophe pourra même devenir la marche du poète en même temps. Mais bon, vous me direz que ça a peut-être un peu de rapport avec le différend judiciaire qui nous importe aujourd'hui.
Ah, j'attendais
la trahison de monsieur Bismuth, oui. Et bien.
Directement en lien, j'imagine.
Vrai, de deux manières différentes d'ailleurs. D'abord, nous avons bien vu comment un coup, une blessure, même en plein milieu du front, pouvait être génératrice d'aventure et même à la fin de sérénité. Et bien, de la même façon, c'est la traîtrise de Paul Bismuth qui a ici suscité aujourd'hui tant d'émulation et qui a permis une émission avec un nombre d'invités record à Montaigne-aux-Azoteuil. Donc nous pouvons finalement remercier Paul Bismuth, merci de nous avoir trahis.
Merci pour la trahison.
Ensuite, la folie passagère de l'Omnicorne, moi, peut-être vu comme représentatif de Montaigne-aux-Azoteuil. Et en effet, de ce que l'émission a apporté à la Révolution elle-même. En effet, si la dérision est l'un des moteurs principaux de l'émission, ce n'est pas un hasard. En effet, le discours comique, ironique ou humoristique, qu'il soit regard en biais sur les choses ou discours destructeur de tabous, est un langage fondamentalement révolutionnaire. Et la réversibilité incessante des modes affectifs de Montaigne-aux-Azoteuil, qui nous fait passer non pas forcément du rire aux larmes, mais au moins du sentiment de joie et d'émulation à celui de révolte et de lutte nécessaire, est une métaphore et si ce n'est même un avatar de l'idéal que l'on appelle révolution permanente.
Oh, magnifique! Je tiens à applaudir le juge pour cette chronique de toute finesse et de toute beauté, même si, voilà, l'accusé fait un peu la gueule. L'accusé fait la gueule. Mais c'est pas grave, il voit juste voilà, la guillotine se rapprocher, finalement. Est-ce si terrible que ça? Monsieur Bertrand Fibien nous expliquera sûrement dans une chronique, dans une émission future, hein. Peut-être que perdre sa tête, c'est finalement pas si mal. Mais on verra. Alors moi, je tiens à dire, en tant que... Voilà, finalement, j'ai été victime, mais aussi analyste de la situation tout au long de cette émission. Et j'ai pu peser ce que représentait cette émission du point de vue social. Et j'ai vu que d'un côté, nous avions quand même la bourgeoisie. Auriane de Monet, donc ancienne noblesse.
Maître de Monet.
Voilà, démonstration.
Ancienne noblesse. Voilà, je ne fais pas de procès d'intention aux gens ni rien, mais quand même, je note. Et évidemment, Monsieur Bismuth, qui derrière son patronyme cache un ancien noble également. Donc voilà, il vient d'une noble lignée, lui aussi. Et de l'autre côté, nous avons le peuple. Hein, voilà, Monsieur Tabu, qui était obligé de voler du pain pour aller au restaurant et scruter, voilà, espionner Paul Bismuth la balance. Tout ça, voilà. Donc, nous avions un conflit ici de classe. Et j'aimerais vous lire ce que Paul Nizan disait dans Les Chiens de Garde en 1932 du conflit de classe. Dans un monde brutalement divisé en maîtres et en serviteurs, il faut, enfin, avouer publiquement une alliance longtemps cachée avec les maîtres ou proclamer le ralliement au parti des serviteurs. Deux choix, donc. Il ne reste plus rien que des combats de partisans. Tout le choix qui se propose est entre deux complicités. Complice de la bourgeoisie, complice du prolétariat. Le temps de la ruse est passé. La seconde complicité comporte la seule fidélité qui compte encore. Elle se montrera au grand jour, sans la pudeur antique de la nuit. Plus personne à tromper, plus personne à séduire. Des coups à recevoir et des coups à porter. Les philosophes d'aujourd'hui rougissent encore d'avouer qu'ils ont trahi les hommes pour la bourgeoisie. Si nous trahissons la bourgeoisie pour les hommes, ne rougissons pas d'avouer que nous sommes des traîtres. Ah. Donc voilà, je pense que mieux qu'un coup de guillotine, cette petite lecture de Paul Nizan vient d'achever le coupable, puisque le duel judiciaire l'a montré, qu'est Paul Bismuth. Et j'aimerais, voilà, comme le peuple fait preuve de magnanimité en général, laisser un dernier mot à Monsieur Paul Bismuth avant qu'il ne se fasse trancher la tête.
Le dernier mot de l'accusé, donc.
Exactement.
Je crois qu'il est temps, avec cette dernière émission, vous l'aurez compris, non pas de la saison, mais cette dernière émission absolue de Montaigne-aux-Azoteuil, de faire en partie tomber le quatrième mur. Et ce sera là mon dernier acte de défense, car oui, Je ne compte pas avouer ma traîtrise qui n'en est pas une, monsieur Thug. Tout à l'heure, monsieur Albert Tabu a parlé de samedi, c'est-à-dire avant-hier, affirmant m'avoir suivi. Puis ensuite, nous avons eu droit à toute une diatribe sur la marche de la part de monsieur Bertrand Fibien. Et je crois que ces deux éléments nous donnent à comprendre la clé de ce procès. Ces deux personnes ne pouvaient pas être présentes pour me suivre ou capables de tenir un discours sur la marche, car ce samedi, j'ai failli en effet à l'équipe. Ça, je le reconnais. Je ne suis pas venu avec vous faire une longue promenade dans les basses Alpes. Non, je ne le pouvais pas. Mais de la même façon, monsieur Tabu ne pouvait pas m'avoir suivi samedi car il était dans cette promenade. Et c'est pourquoi vous me faites le reproche de ne pas avoir assez marché. Et en réalité, la vraie question qui se pose, ce n'est pas ma traîtrise, monsieur Thug, mais qui se cache derrière ce prénom qui est le vôtre.
Ah, c'est ça la question, en fait.
Tout à fait, il faut savoir qui accuse.
Eh ben, vous ne le saurez jamais puisque votre tête va tomber, monsieur Bismuth. Et je pense que sur ces mots de l'accusé, voilà, nous avons quand même laissé la parole à l'accusé. Vous avez vu qu'il y a eu de quoi se défendre, hein, mais que ça n'a pas été suffisant puisque il a perdu le duel judiciaire. Hein, quoi, qu'est-ce que vous voulez. Que nous allons, voilà, laisser cette émission de Montaigne Was the Thug. Mais d'abord, on va s'écouter un dernier son et après, on fera nos adieux définitifs parce que voilà, quand même, voilà.
La passion d'un prodigé, garçon, voilà une ration pour ton DJ. J'aurais pu taille black crazy, mais je braille pas plaisir. Et j'ai appelé mon bail, moi, désir. C'est ça même. Rimes, parolier, le lyriciste bande. De l'amour, ce n'est que le commencement. Yo, un jour l'école m'influençait moins. Comment leur dire que les poèmes d'Apollinaire ont moins de verve que demain c'est loin. Y'a des témoins sur mes fautes, mais à quoi sert de faire des maths si on peut pas compter les uns sur les autres. Laisse pas tes complexes te mettre à l'amende. Bien sûr que le meilleur rappeur de France a un cheveu sur la langue. Mais quand je dégaine, il n'y a pas de lol. Moi je pourrais vous faire la guerre avec un one love. Yeah. C'est pour les quartiers de France, du Maghreb et d'Amérique latine. Pour mes West Af et pour mes Bantous. Yeah. J'étais parti en vrille car je voulais prouver. Papa m'a dit que c'est parfois en se perdant qu'on finit enfin par se retrouver. Et moi j'emmerde ceux qui m'ont pas épargné. Bizarrement depuis que je n'ai rien à perdre, je ne fais que gagner. Inégalé pendant que le game s'entretue. Je suis en clash avec moi-même et ceux qui ne me tuent pas me rend têtu. Le savais-tu qu'on les gêne donc ils nous enlèvent. Jette pour les têtes en l'air et jette un Y en l'air. Jette un Y en l'air. J'ai un Y en l'air. J'ai un Y en l'air. Ma sœur. Et j'envie toute la foule en quête. J'ai la rime flow Winchester. C'est pour tous nos absents, les grands enfants et pour les gesteurs. Une dédicace au Congo, Africa dans mon logo. Mon public est magique, quand je m'agite il part en pogo. Y'a du feu dans mon karma, j'ai les yeux de la mama. Elle m'a dit oui tu peux mais bien avant Barack Obama. Un stylo dans le fusil, philo est dans le building. Prête à des fourrailles, qui peut crailler pour mailler musique. Mais dis-moi qui, je fais mon beurre pendant que le temps s'écoule. L'avantage avec le buzz, même ceux qui ne t'aiment pas t'écoutent. N'attends pas que je m'écroule quand les vivants se montrent. Celle qui me tient encore debout n'est même plus de ce monde. Yeah. Oh. T'avais jamais entendu de rap français. Et c'est un titre à tester sur celle-ci.
C'était la dernière émission de Mountain Was a Thug. Et voilà, c'est ainsi qu'on termine hein, sur cette magnifique chanson L'amour de Youssoupha sur l'album Noir Désir, puisque c'est dans l'amour que nous terminons cette émission, plus qu'une fois que la haine voilà, a été expurgée. Une fois que la tête de Paul Bismuth est tranchée, on peut à nouveau s'aimer. Finalement, c'est ça le bilan, la leçon. Mais voilà, alors cette émission de rap, littérature et révolution qui pendant 2 ans s'est épanouie sur Radio Canu, a pu bourgeonner, fleurir peu à peu. Aujourd'hui, perd son dernier pétale. Et il me fait devenir totalement poète. Et donc, je tiens à remercier évidemment tous les invités ici présents. Albert Tabu, Nelson Goku, le grand Bertrand Fibien, le futur décapité Paul Bismuth, Oriane de Monet aussi qui est là et qui a fait le taf, hein, même si son taf était complètement ingrat. Je tiens à remercier bien sûr Eugenio Negro qui n'a pas pu être présent, tous les chroniqueurs qui ont pu participer à cette émission, Josiane Tabasco qui des détours par cette émission, qui a proposé ses sons. Je n'ai plus dans la tête la liste exacte des gens, mais voilà, tous ceux qui ont pu contribuer d'une manière ou d'une autre, les éventuels invités, Jean-Pierre qui fait l'émission avant moi, et surtout tout Radio Canu, voilà, qui m'a permis de faire monter Noise Tug pendant 2 ans. Encore ajouter de plus, nous espérons que la révolution dans la tête se fera calmement, comme l'a dit Youssoupha et comme nous l'avons souvent répété à Radio Canu. Parfois, de brèves punchlines valent mieux que de beaux discours.
Si je vois mes rêves s'envoler, je les rattraperai en jet privé.
C'est comme ça qu'on va terminer. Mountain Was a Thug, des bisous à tous. Restez dans l'amour, comme l'a dit Youssoupha. Et continuez d'écouter la plus rebelle des radios sur le 102.2. Bien sûr, vous pouvez podcaster tous les Mountain Was a Thug sur le Arte Radio. J'ai failli oublier de les dire. Et il y a aussi une page Facebook. Et voilà. Ciao, ciao, bonne semaine à tous.
J'ai fait sa connaissance dans les années 80. Ma vie, elle a donné sens. À l'époque, on s'éclatait bien, ouais. J'allais la voir au métro Défense chaque dimanche. American Black, pour elle, j'aurais plaqué 10 blanches. Elle venait de ses ghettos, sans guetter. On vous dit assez tôt de pas chercher pourquoi ici l'hiver ressemble à l'été. Même les saisons ne changent plus. Malheureusement, toi, t'as changé. Au début, j'ai pas vu le danger. Mais dis-je, je l'ai vu, mais je voulais pas le croire. Surtout pas soi. Tu voulais que je fasse quoi? À part m'asseoir pour te voir. Dans ma mémoire, à tes débuts, avant que surgisse nombre des boires. Allez à toi qui m'ont déçu, toi qui t'ont déchu. Même si les milliards te sont tombés, tu te sais. Dans la vie, bébé, y'a pas que l'argent et le succès. Y'a aussi des valeurs telles que le respect, la reconnaissance. À l'heure où je te rappe, je ne rêve que de ta renaissance. Ton âge d'or quand t'étais hardcore, j'irais pas de bord. En plus t'étais dansante et ça, on trouvait ça fort. Aujourd'hui beaucoup t'écoutent mais peu te comprennent. Aujourd'hui en ce qui me concerne, tes déroutes peu me conviennent. Musique rap, rap, musique que j'aime.
Ouais, ça là.
Ouais, et musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum. Ouais, musique rap, rap, musique que j'aime. C'est ça là. Rap, rap, musique que j'aime, j'aime ton parfum. Ouais, mais quand j'ai voulu te ramener aux sources, tu sais, ils m'ont traité de pro noir. J'ai dû trapper mes bourses, devenir gangster, parler comme une pute de trottoir. Ça m'a fait mal au cœur, mais c'était ça. J'suis tombé KO, sœur, toi aussi tu m'aurais dit ciao. T'as troqué tes perles contre des bijoux. Tant qu'a toujours voulu devenir une star noire, là, au moins t'as eu les paillettes. Mais ma grand me trouvait sa panette. Un beau matin, j'ai dit, bon, j'arrête. Pendant 3 ans, j'ai disparu ta vie. À mon retour, t'es toujours pas connu. Il t'avait tellement sali. J'en ai pas lu, il m'a fallu du temps, ça pour le réaliser. Pour toi j'ai versé plus le sang qu'elle est semi qui n'anime t'entends. Mais Dieu merci aujourd'hui tu vis. Grâce à toi j'ai pu m'en sortir sans pour autant encore bien étudier. Car tu es ma source de connaissance, la seule unique qui a ma vie à donner sens. Musique rap, rap, musique que j'aime.
Ouais, ça là.
Ouais, et musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum. Ouais, musique rap, rap, musique que j'aime.
Ouais.
Musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum.
J'aime ton parfum.
Ouais, mais ton si t'as pas compris le concept. Je
t'explique ma musique, c'est ma femme et ma femme, faut pas la contester. Sauf si tu comptes rester sur le carreau mort, con. Sache que je n'aurais aucun remords, donc respecte la bronque, c'est la fillette de la fronque. Mâche conque, je lâche bombe, c'est sûr elle lâche tombe. Gaston, lâche ton billet, mon bébé est né, c'est un bijou. Alors où je rappe, il n'a que 6 jours. Musique rap, rap, musique que j'aime.
Ouais, ça, là.
Ouais, une musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum.
Ouais,
musique rap, rap, musique que j'aime.
C'est ça, gars.